Radio France Internationale, 9h30 à Paris et à Niamey, 8h30 en temps universel.
Nemo en piste.
Et à la une, c'est Niamadou qui a passé la nuit à la police judiciaire au Niger. Le rédacteur en chef de la chaîne de télévision privée Canal 3, toujours en garde à vue. On reproche à la chaîne d'avoir publié un classement des ministres en fonction de leur performance. Vous entendrez les responsables, le responsable de Reporters sans frontières en Afrique de l'Ouest. Dans ce journal également, la Société Générale qui trouve un acquéreur en Mauritanie. Un tandem d'investisseurs qui aurait les faveurs de Nouakchott. Plus de détails dans un instant. Reportage ensuite en Côte d'Ivoire, où ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes, baccalauréats en poche, qui cherchent à s'expatrier, et notamment vers le Canada, devenu la deuxième destination privilégiée des étudiants ivoiriens. Enfin, les sports. Et le TP Mazembe qui sauve l'honneur. Victoire écrasante des Congolais sur les Soudanais d'Omdurman, 4-0 à l'occasion de la dernière journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Des corbeaux éliminés, mais qui se projettent déjà vers la prochaine saison. Le Niger pour débuter, où le journaliste Seni Amadou est toujours en garde à vue. Le rédacteur en chef de la chaîne privée Canal 3 a passé la nuit à la police judiciaire. Son interpellation fait suite à la suspension de la chaîne pour une durée d'un mois. En cause, la diffusion d'un baromètre qui classe les ministres en fonction de leur performance au sein du gouvernement. Un exercice pourtant habituel auquel se prête Canal 3 chaque année, mais cette fois-ci le ministère de la Communication a décidé de suspendre la chaîne ainsi que son rédacteur en chef. Je vous propose d'écouter Sadi Boumarong, directeur du bureau d'Afrique de l'Ouest de l'ONG Reporters sans frontières.
C'est un élément d'une sorte de radioscopie des performances des ministres, où chaque ministre reçoit un point sur la base de ses efforts. On ne peut pas interdire à un média d'émettre un jugement sur les performances des ministres pris individuellement et dans l'exercice de leurs fonctions, et qui plus est, ont une obligation, disons, de rendre compte au peuple. Donc, le fait de retirer la carte de presse du journaliste Seni Amadou, le convoquer à la police judiciaire, et le fait aussi de suspendre le média Canal 3, et nous semble être une décision disproportionnée, voire un abus de pouvoir, notamment dans le contexte du Niger, où au début de la transition, effectivement, les autorités militaires avaient suspendu le Conseil supérieur de la communication, qui est, en tout cas dans l'arsenal juridique, le régulateur des médias, donc doté du pouvoir de suspendre les médias. Nous estimons donc que cette série de décisions est assez abusive, puisque l'élément diffusé, de notre point de vue, ne porte aucunement atteinte aux règles, disons, éthiques et déontologiques.
Sadi Boumarong, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de l'ONG Reporters sans frontières. Il était joint par Sidi Yansane. Au moins 70 personnes tuées dans l'explosion d'un poids lourd transportant du carburant au Nigeria, précisément sur la route qui relie Kaduna à Abuja, alors que le véhicule s'était renversé, déversant ses 60 000 litres d'essence sur la route. Des dizaines de personnes se sont ensuite précipitées pour tenter de récupérer de l'essence avant qu'un incendie ne soit déclenché après un contact avec un groupe électrogène. Il y a 3 mois, déjà, un accident du même type avait fait plus de 170 morts. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé hier à l'occasion de ses vœux aux ambassadeurs stationnés à Kinshasa. Il a renouvelé sa demande de mobilisation de la communauté internationale pour obtenir des sanctions ciblées contre le voisin rwandais, en raison de son soutien au groupe armé du M23 qui agit dans l'est du pays. Il a rappelé l'une des lignes rouges des autorités congolaises: aucun dialogue avec le M23, des discussions directes voulues par Kigali. L'est de la RDC et la province du Nord Kivu encore, avec ce bilan des attaques mercredi des ADF dans le territoire de Lubero qui s'alourdit. Au moins 45 morts selon Kambale Maboko, président société civile de la chefferie de Baswaga. Et puis, alors que des soldats de l'opération ougando-congolaise Shuja traquaient ces assaillants ADF, ils ont été pris dans une embuscade tendue par des miliciens Maïmaï. Selon le porte-parole des FARDC dans la zone, il y a 2 morts et 10 blessés du côté des militaires congolais et ougandais. Après le Maroc et la Guinée, c'est désormais en Mauritanie que la Société Générale a trouvé un nouvel acquéreur. La nouvelle est parvenue via un communiqué du consortium Enco Capital Oronte. L'accord a été signé avec la banque qui cherche à céder sa filiale depuis plusieurs années. Souvenez-vous, il y a 2 ans déjà, la Société Générale avait trouvé preneur, le Burkinabé Coris Bank, mais la Mauritanie avait mis son veto. Cette fois, Charlotte Cossé, ce sera peut-être la bonne.
À la tête de cette initiative, un tandem Enco Capital des frères Alain et Cyril Nkonchou, société d'investissement spécialisée sur le marché africain. Elle est basée en Afrique du Sud et à Londres et dispose de capitaux sous gestion de plus d'un milliard de dollars. Voilà donc pour le premier investisseur. Le second étant Oront, acteur de la finance en Afrique, représenté par Éric Bastien Baloué. Ce dernier n'est pas inconnu du secteur. Ancien directeur général de l'entreprise Rougier, il fonde en 1999 les Grands Moulins de Mauritanie. Et depuis 2007, il préside le conseil d'administration de la Société Générale dans le pays. Ce duo aurait les faveurs de Nouakchott, selon des informations du journal Les Échos. Mais si Société Générale Mauritanie confirme avoir conclu cet accord, elle rappelle que cette cession est soumise notamment à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes. Les potentiels repreneurs de Société Générale assurent vouloir diversifier les produits bancaires et renforcer les standards de gouvernance. Ils affirment également vouloir soutenir les secteurs stratégique qu'énumère un communiqué, à savoir le gaz, les mines, l'agriculture et la pêche.
Charlotte Cossé, du service économie de RFI. La suite de cette édition en Côte d'Ivoire, où après avoir obtenu le baccalauréat, de nombreux jeunes décident de partir à l'étranger pour poursuivre leurs études. Si beaucoup se dirigent encore vers la France, le Canada les intéresse également. Le pays d'Amérique du Nord est devenu la seconde destination pour les étudiants ivoiriens. Les diplômes y sont prisés. L'engorgement est moins important qu'en France. 4700 étudiants ivoiriens y ont actuellement un permis d'études selon l'ambassade canadienne à Abidjan. Et chaque année, un salon permet à une vingtaine d'universités d'y présenter leur cursus. Reportage signé Binta Diagne.
Je veux aller faire mes études au Canada, plus précisément à Sherbrooke.
Bloc-notes sous le bras, Maïgaline sait précisément ce qu'elle veut. Cette lycéenne rêve de rejoindre ses deux grands frères qui étudient déjà au Canada. Cette jeune de 17 ans en a bien conscience. Cela a toutefois un coût pour sa famille.
Ça coûte très cher. Plus de 5 millions par année.
Fils d'un fonctionnaire international, Jean-Emmanuel hésite entre deux filières, économie et politique appliquée. Ce jeune a déjà postulé dans 3 universités canadiennes. Un choix réaliste, dit-il.
Vous verrez qu'en France, il y a beaucoup d'étrangers. Et pour pouvoir avoir du travail ou même des alternances, ça devient compliqué aujourd'hui. Le Canada a une population vieillissante. Ils encouragent l'immigration et c'est propice pour les études. Et aussi, les opportunités de travail, il y en a beaucoup.
Devant leur stand, les universités mettent l'accent sur la diversité de leurs spécialités. Catherine Breton représente la Fédération des cégeps qui regroupe 48 établissements.
On voit quand même un engouement soins infirmiers par rapport à gestion et administration aussi. Donc, probablement des futurs entrepreneurs.
Au cours de ces échanges, les services de l'immigration donnent également des conseils pratiques pour déposer les dossiers en ligne et éviter les fraudes souvent liées aux intermédiaires. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est 8h38, du sport pour refermer ce journal. Du football d'abord, ce week-end dont je vous la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Hier, 6 matchs étaient au programme, avalanche de buts, 24 réalisations au total et parmi les bonnes nouvelles du jour, la victoire, certes symbolique, des Congolais du tout-puissant Mazembe, déjà éliminé. Le récit de cette journée avec Sofiane Amazian.
Après leur victoire 4-0 dans le stade de Kamalondo, les Corbeaux de Mazembe ont posé un genou à terre pour s'excuser auprès de leurs supporters. Car le club de Lubumbashi, demi-finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière, termine bon dernier de la poule A malgré ce succès anecdotique face au Soudanais d'Al Hilal déjà qualifié. Dans cette même poule, c'est le Mouloudia Club d'Alger qui s'empare du deuxième billet qualificatif pour les quarts de finale. Les Algériens n'avaient besoin que d'un nul et c'est ce qu'ils ont obtenu en Tanzanie face à Young Africans, score final 0-0. Belouizdad, Dad, de son côté, n'avait pas de temps à perdre. Victoire 6-0 face au stade d'Abidjan, deux équipes déjà éliminées. Même score, 6-0 entre Pyramids et le Djoliba de Bamako. Les Maliens sont derniers, les Égyptiens, deuxièmes de leur groupe, à égalité de points. Avec l'Espérance Tunis, finaliste malheureux la saison dernière et vainqueur facile à domicile de Sagrada, 4-1. La petite surprise de la journée, la défaite au Caire du tenant du titre à l'Arly face aux Orlando Pirates, 2-1. Les 12 fois champions d'Afrique conclut donc la phase de poule à la deuxième place.
Sofiane Amazian du service des sports de Radio France Internationale. Et ce dimanche, deux autres rencontres, les deux dernières de cette phase de poule sont prévues. Mamelodi Sundowns contre les Phares de Rabat. D'autres Marocains, le Raja Casablanca contre Maniema. Deux coups d'envoi à 16h, temps universel. Et puis aujourd'hui également, suite du mondial de handball, la Guinée, pour sa première participation, affronte la Macédoine du Nord à 17h, temps universel. Hier, la Tunisie a battu l'Algérie 26 à 25. Le Cap-Vert s'est incliné 24 à 36 face à la Slovénie. Il est 9h40 ici à Paris. Excellente suite des programmes sur RFI.